les rencontres politiques en Ariège, questions locales, territoriales, régionales, interrégionales ou même mondiales. C'est à retrouver en écoute sur Radio Qui Pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique. Celui qui ne veut pas lutter a déjà perdu. L'émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires elle-même. Alors, on en discute pour mieux agir. Sur Radio Kikiki Pique. Lundi 17 juin 2024, ancien presbytère de Saint-Lizier, rencontre avec Samira Jarrar, doctorante italo-palestinienne de l'université Aix-Marseille, sur les conditions de vie des Palestiniens et des Palestiniennes en Cisjordanie, territoire colonisé par l'État d'Israël. Une rencontre organisée par l'association Couseran Palestine.
Rapidement, juste pour vous dire que Samira est palestino-italienne. Elle est doctorante à l'université de Aix-en-Provence. Elle fait une thèse d'anthropologie sur la Palestine. Après une année passée en Palestine, elle avait très envie de voir du vert. Et c'est ce qui l'a amenée en Ariège, où depuis hier, elle s'émerveille de notre verdure. Voilà, je ne vais pas prolonger davantage. Je pense que la situation en Palestine, tout le monde la connaît. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait. Mais simplement dire le plaisir que nous avons de pouvoir faire parler une Palestinienne sur la Palestine. Parce que finalement, on les entend presque plus. C'est impressionnant, mais que ce soit sur les télés, les radios et dans les conférences, c'est finalement relativement rare qu'on entende un Palestinien ou une Palestinienne parler de son pays. Et puis nous allons parler surtout de Cisjordanie, puisqu'elle a passé son année en Cisjordanie. Alors on parle beaucoup de Gaza, et heureusement, on parle moins de Cisjordanie, et pourtant il s'y passe des choses affreuses. Et donc elle pourra nous raconter, à partir de son vécu, comment s'est passée son année à Ramallah. Voilà.
Bah déjà, merci à toutes et à tous. Merci aux organisateurs et aux organisatrices pour l'organisation de cet événement. Pour moi, c'est un grand honneur et plaisir de pouvoir parler en Ariège. Moi, je suis, comme Lucille le disait, italo-palestinienne. Et j'ai connu l'Ariège un peu tard, mais grâce à ma famille d'adoption, en fait, j'ai pu comprendre que l'Ariège, c'est une région qui a une longue histoire aussi de résistance, avec une vie associative et communautaire assez forte. Et en tant que palestinienne, ça me parle beaucoup. Je trouve qu'il a plein de similarités avec la Palestine, même si on est dans des géographies assez distantes. Du coup, oui, moi je suis, comme je le disais, palestinienne du côté de mon père. Mon père qui vient de Jenin, qui est une ville peut-être en Cisjordanie du Nord. Et, oui, voilà. Lui, il est né en Jenin en 1952, c'est-à-dire seulement 4 ans après la Nakba, c'est-à-dire l'événement en fait, que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Du coup, la création de l'État d'Israël qui a comporté l'évacuation forcée d'entre 750 et 800 000 Palestiniens, la destruction de 500 villages. Et après, lui, il a quitté la Palestine en 1969, c'est-à-dire 2 ans après la Naxa. Du coup, l'occupation d'Israël de ce qui restait de la Palestine, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza. Et moi, je suis née en 1994, c'est-à-dire pendant la signature des accords de Oslo, qui apportait un peu la situation actuelle de la Palestine. Les vies des Palestiniens, ils sont signés par cette temporalité politique qui nous rattache forcément à l'histoire collective de notre peuple. Et voilà, mon grand-père, qui est encore vivant, qui habite à Jenin, il est né en 1927, du coup il avait presque 20 ans en 1948. Et il me raconte, en fait, il a encore une mémoire très vivante de ce qui a été la Nakba, mais aussi ce qui était la vie en Palestine avant la colonisation israélienne. Et pour moi, en fait, mon grand-père, du côté italien, donc plus ou moins dans les mêmes années, du coup en 44-45, il était dans la résistance contre le fascisme en Italie. Et lui et mon grand-père en Palestine, il s'est engagé dans la lutte de résistance contre les premières des groupes terroristes sionistes, après l'arme sioniste. Et du coup, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, l'histoire de la résistance palestinienne, en fait, c'est une histoire commune un peu à tous les peuples qui ont subi des dictatures, mais aussi la colonisation. Et aussi pour dire que l'histoire de la colonisation israélienne n'est pas une histoire très longue. Il y a des gens qui sont encore vivantes, comme mon grand-père, qui se souvient d'une vie avant la colonisation. Et voilà. Mais du coup, la Palestine que moi j'ai connue, c'est la Palestine après les accords de Oslo, du coup une Palestine qui a été, comme on voit dans la carte, une Palestine qui est qui pour les 40% de territoire maintenant est Israël, et où en fait même dans la Cisjordanie et à Gaza, il y a quand même une forte présence de l'occupation militaire israélienne. Du coup, après les accords de Oslo, on a divisé comme ça les territoires, il y a Israël et après la Cisjordanie. Mais même à l'intérieur de la Cisjordanie, elle est divisée en plusieurs zones. Et seulement 20% de la Cisjordanie, du coup, c'est qu'on voit en vert, c'est contrôlé par l'autorité palestinienne. Tout le reste, 80% de la Cisjordanie, est sous le contrôle plus ou moins direct d'Israël. Du coup, c'est une... voilà, en fait, il y a un continu clignotage du territoire par Israël. La Cisjordanie, elle est entourée par un mur qu'on a construit depuis 2005. Et en fait, le mur, il ne suit pas vraiment ce qu'est la ligne verte. Il rentre aussi en Cisjordanie, il coupe des villages, etc. Et dans la Cisjordanie, il y a énormément de colons israéliens qui sont là de manière illégale selon le droit international. Il y a, je ne sais pas le numéro exact, mais je crois qu'entre peut-être demi-million et un million de colons.
Et 700 000,
voilà. Il y a plus ou moins 300 colonies. Et quand on parle des colonies, il ne faut pas imaginer les petits avant-postes avec 2-3 maisons. Il y a de véritables villes énormes, par exemple Ariel, où il y a dedans un hôpital, des universités. Et il y a toute une infrastructure qui lie ces colonies les unes des autres et qui nie la Cisjordanie avec le reste d'Israël. Et, du coup, voilà, et Israël continue à contrôler toute l'économie de la Cisjordanie, bien qu'il y ait l'autorité palestinienne, mais en fait, c'est une autorité palestinienne qui, de facto, n'a pas contrôle sur sa propre économie, ni sur les frontières. D'ailleurs, sur la question des frontières, Israël n'a pas de frontières bien limitées, parce que, justement, il y a cette idée d'une possible, potentielle expansion illimitée. Du coup, bah, c'est ça un peu la situation. C'était ça un peu la situation avant le 7 octobre, une situation véritablement d'occupation militaire. Et ce qui s'est passé après le 7 octobre, c'est une augmentation de toute la violence et de l'armée, mais aussi des colons israéliens. Du coup, en ce qui concerne les colons, ils ont été armés par les autorités israéliennes. Et du coup, maintenant, c'est très difficile aussi quelquefois de distinguer les colons des militaires. C'est-à-dire que quelquefois, les colons, ils ont des uniformes, justement militaires, ils ont des armes, ils ont des M16 et tout ça. Et quelquefois, on peut les reconnaître parce que peut-être ils n'ont pas les mêmes chaussures, mais c'est très difficile de les distinguer. Et ils vont dans les villages, ils terrorisent les gens. Et en fait, il y a aussi plein de communautés palestiniennes qui, par peur et à cause des intimidations, ils ont quitté leur village. En fait, on trouve aussi, les colons mettent des affiches, soit ils peuvent aussi arriver à brûler des maisons, tuer les prévis. C'est souvent des communautés palestiniennes qui, donc l'activité économique principale, c'est le... l'élevage, oui. Il met des affiches avec des mots d'incitation vraiment au génocide. Et ça, en fait, ça fait venir dans l'esprit tout ce qui était le terrorisme de la Nakba. Et dans cette affiche, il écrit « On va vous expulser, vous devez aller en Jordanie, etc. » Et après, il y a bien sûr la... l'augmentation de la violence de l'armée israélienne. Du coup, après le 7 octobre, il y a eu une multiplication de checkpoints. Déjà, il y avait des checkpoints, en fait, quand on doit circuler en Cisjordanie. Dans toutes les routes, on trouve toujours un checkpoint israélien. Mais après le 7 octobre, ils ont augmenté le nombre de checkpoints et les contrôles sont assez violents. Ils peuvent vous contrôler les téléphones s'ils trouvent qu'il y a quelque chose, des photos, des solidarités, en fait, qui démontrent que vous avez un peu de solidarité pour la Palestine. Ils peuvent vous arrêter, vous garder une demi-heure, menotter, etc., au bord de la rue. Tout ça, évidemment, ça rend les choses compliquées, tout ce qui concerne du coup, se déplacer d'une ville à l'autre. Et du coup, moi, je connais j'ai une collègue qui travaille à l'université de Bizet, et son village, il serait à tout au moins 20 minutes à pied de l'université. Sauf qu'au milieu, entre son village et l'université, il y a un checkpoint. Du coup, qui est toujours fermé. Du coup, ce qu'elle doit faire, elle doit prendre une voiture et ça lui prend genre 2 heures pour arriver à l'université. Du coup, ce qu'elle fait, elle dort, elle passe la semaine à l'université, après elle rentre seulement pendant les week-ends, elle rentre chez elle. Et c'est le cas pour énormément de gens. Tous les gens qui habitent dans les villages et qui travaillent dans la ville doivent trouver ces stratégies pour pouvoir travailler et aussi rentrer chez eux. Et après, la violence, en fait, elle s'exerce aussi à travers tout ce qui est incursion de l'armée israélienne dans les villes et dans les villages. Et ça arrive surtout en Cisjordanie du Nord. Comme je disais, moi, on est de Jenin. Et à Jenin, à Toul Karem, l'armée israélienne rentre régulièrement pour faire des arrestations ou pour exécuter aussi des jeunes qui participent à la lutte de résistance anticoloniale. Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent, ils arrivent avec les bulldozers, ils coupent tout ce qui est aussi Internet, tout ce qu'on n'est plus capable de communiquer. Et voilà, ils arrivent avec les bulldozers et ils détruisent les rues, ils détruisent tout ce qui est infrastructure. Ça empêche évidemment tout ce qui est la circulation aussi des ambulances. Mon oncle, il travaille dans les ambulances et en fait, il m'a dit que déjà l'armée israélienne tire sur les ambulances, donc c'est très dangereux. Mais en plus, c'est très difficile d'amener les blessés à l'hôpital parce que toutes les rues autour de l'hôpital sont détruites. Quelquefois, ils font aussi des incursions à l'intérieur des hôpitaux. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, ça n'arrivait pas avant. Mais bon, on a vu qu'à Gaza, tout ce qui était un peu l'effet de ne pas attaquer les hôpitaux, ben maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez commun. Et du coup, en fait, ils attaquent aussi les hôpitaux. Et quelquefois, ils bombardent aussi. Quelquefois, ils lancent des bombes des hélicoptères Apache, et du coup, quelquefois, ils font exploser comme ça de voitures. Et on part de la Cisjordanie. Et même à Jenin, comme à Gaza, pas comme à Gaza, mais à Jenin aussi, il y a tout le temps des drones sur la ville. Et du coup, il y a constamment ce bruit de zzzz, ce qui rend la vie assez. C'est assez embêtant. Du coup, c'est ça, en fait. Ils rentrent, ils tuent et ils font plein d'arrestations. Du coup, depuis le 7 octobre, le nombre de prisonniers a doublé, presque, même plus. Et du coup, il y a aussi la question des prisonniers politiques palestiniens et des conditions de vie de prisonniers dans les prisons israéliennes. Et c'est quelque chose qui est assez effrayant parce qu'on sait que les conditions de vie des prisonniers sont devenues beaucoup, beaucoup pires. Les gens sortent, ils ont beaucoup de poids et ils racontent des choses horribles, des tortures. Ils sont mal nourris, ils doivent boire de l'eau polluée. Ils sont constamment tabassés et il y a beaucoup de violences psychologiques. On parle aussi de violences sexuelles et beaucoup de prisonniers qui ont raconté d'avoir subi des violences sexuelles.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Il y a pire que ça, malheureusement. Il y a tous ce qui en fait les prisonniers de Gaza, du coup des gens qui ont été arrêtés à Gaza, mais aussi des travailleurs de Gaza qui travaillaient en Israël. Après le 7 octobre, leurs permis de travail ont été suspendus. Du coup, ils se sont retrouvés d'un jour à l'autre illégaux sur le territoire israélien et du coup, ils ont été arrêtés. Et certains de ces gens-là ont été amenés, pas vraiment dans des prisons, mais dans des centres de détention militaires. Et on ne sait pas, on ne connaît pas leurs conditions. Et avec eux, il y a aussi tous les gens qui ont été arrêtés à Gaza. Et là, on parle vraiment de véritables tortures, c'est-à-dire des gens qui... 24 heures sur 24, ils ne peuvent pas voir, en fait, ils leur mettent une chose comme ça sur les yeux. Et ils ont les mains et les pieds liés 24 heures sur 24. On a dû faire des amputations, en fait, de mains et des pieds, parce qu'ils étaient liés trop longtemps et ça fait des infections. Et ils portent aussi de pampers, comme ça. Oui, des couches, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas aller aux toilettes, ils sont constamment liés. Et voilà, aussi, ils subissent des violences psychologiques et sexuelles. Et ça, c'est peut-être une des pires choses qui est en train d'arriver en Palestine en ce moment. Et après, il y a tout ce qui est aussi en Cisjordanie. Tout ce qui est aussi le poids de constamment voir ce qui est en train de se passer à Gaza. En fait, les deux territoires ne sont pas déconnectés. On a constamment des contacts avec des gens de Gaza ou des gens qui sont de Gaza qui sont en Cisjordanie. Et du coup, en fait, c'est vraiment l'effet de voir son propre peuple qui est tué de manière indiscriminée. Et l'idée qu'en fait nos vies ne vaut rien, qu'il y ait quelque chose de très lourd, je ne sais pas si j'arrive à exprimer ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et voir aussi l'impuissance mais l'indifférence générale des gouvernements. Mais on voit aussi tout ce qui est la solidarité, comme par exemple cet événement de ces soirées internationales, qui donne beaucoup d'espoir. Mais c'est vrai que c'est très difficile à niveau psychologique d'être en Palestine. Il y a constamment, et même en Cisjordanie, un peu les fantômes de la mort. Et moi, j'étais, par exemple, à Jenin, j'étais invitée à un mariage. Et un des gens qui faisait de la décoration dans ces mariages, c'était quelqu'un qui était recherché par l'armée israélienne. Et quand les invités ont découvert ça, quelqu'un est parti. Mais les organisateurs du mariage, ils ont dit non, on les garde parce qu'il faut donner du travail même aux gens qui sont dans la résistance. Et mon ami m'a dit, mais en fait, les mariages, ça devait être un moment de vie, en fait, un moment de renaissance, de vie. Mais il y a constamment cette pensée de la mort. Parce que s'il y a un recherché parmi nous, ça signifie que l'armée israélienne peut arriver. Il peut lancer une bombe, on peut mourir à l'instant. Et en fait, les gens me disent, si tu dois faire quelque chose en Palestine, en Cisjordanie, tu l'as fait aujourd'hui, tu n'attends pas demain. Si tu as un rendez-vous, si tu dois voir quelqu'un, tu le fais aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Peut-être qu'il y a l'armée israélienne qui arrive, ils vont bloquer la ville pour une semaine, peut-être ils vont nous tuer. Et c'est ça. Mais il y a aussi beaucoup de... il y a aussi une forme de résistance des Palestiniens. C'est-à-dire, ils ne se laissent pas aller, ils tiennent bon. Il y a en fait ce mot que peut-être vous connaissez, c'est le soumoud des Palestiniens. C'est que malgré toutes les difficultés, on continue à rester, à exister. Et moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de sens de l'humour aussi parmi les Palestiniens. Une fois l'armée israélienne était rentrée à Jenin, ils avaient tout détruit. Toutes les routes étaient complètement cassées. Et du coup, ils avaient aussi détruit des tuyaux d'eau. Et du coup, en fait, il y avait de la boue partout, de l'eau partout. Aussi, ça puait parce que c'était des tuyaux de... voilà. Du coup, c'était pas mal horrible. Mais en fait, je parlais avec les gens et ils disaient, ben, mais finalement, on a la mer à Jenin. Parce qu'en fait, eux qui habitent à Jenin, ils habitent en Cisjordanie, ils ne peuvent pas aller à la mer parce qu'il y a la frontière, en fait, tout est contrôlé par Israël. Et du coup, comme ça, ils ont fait un peu cette blague. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent retrouvé en Cisjordanie aussi, vraiment faire face aux difficultés avec un sourire et toujours garder un bon esprit. Et voilà, moi, je ne sais pas si vous avez des questions. Si...
Je vais essayer de trouver un autre
micro. Oui.
Ah oui, c'est pas super, ça marche.
C'était un peu mauvais parce que oui, j'ai fait une recherche de doctorat sur les questions médicales. Si vous avez de...
Je suis bien forcément pour le... C'est trop dérangeant, on coupe le micro, ça a l'air de fonctionner. Quelqu'un a une question, une intervention? Alors moi, bah du coup, moi je
vais garder la parole,
non, simplement pour réagir à ce que tu disais. Déjà, tu finissais sur...
Tu finissais sur le sens de l'humour. Que pouvaient avoir les Palestiniennes et les Palestiniens. Au-delà de ça, moi en t'écoutant aussi, c'est même la façon de presque toujours relativiser. Parce que quand tu dis que les drones au-dessus de la tête, c'est embêtant, je pense que ici entre nous, il y en a bien d'autres qui auraient utilisé un autre vocabulaire, une autre manière. Et ça, je trouve ça juste complètement. Enfin, c'est éblouissant de voir à quel point vous arrivez à, je ne vais pas dire à garder votre calme, mais tu sais, à toujours relativiser entre la situation insupportable qui est aujourd'hui en place depuis 76 ans, et puis finalement la réalité où ça ne sert pas forcément à rien, à quelque chose de s'emporter, puisqu'il faut garder la raison, il faut rire aussi, il faut vivre, comme tu le disais.
Ça s'appelle vivre, ça.
Enfin, je ne vais pas répondre à ta place, mais à un moment, si tu n'as que ça, je pense que ouais, il faut trouver, comme on entendait, je ne sais plus qui disait, qui voyait des gamins dans les hôpitaux à Gaza, qui jouaient. C'est dur. Mais il disait au moins ça reste des enfants.
Par contre, quand
je vois d'autres gamins qui ne jouent plus, là ça me fait mal. Et là, les enfants arrêtent de vivre.
Mais l'adulte continue à faire des enfants, est-ce que c'est vraiment une possibilité?
De continuer à faire des enfants?
Ben,
ça ne peut pas empêcher aux gens de faire des enfants si la situation est grave. En France aussi, c'est pas. On pourrait même dire que. Avec. Tout ce que les changements climatiques peuvent nous amener, c'est pas sage de faire des enfants, mais on ne va pas empêcher aux gens de faire des enfants.
Si c'est pour qu'ils meurent une seconde après sa naissance.
Ce sont des choix personnels. Pour moi, c'est des choix.
Oui, enfin, ça, c'est pas le problème.
On peut pas faire des enfants ou en faire.
Puis c'est même philosophique aussi, quand même. Si on détruisait toute la population qui est autour de moi, j'aurais envie de la multiplier.
Il y a aussi.
Les choses risquent pas de changer s'il n'y a plus personne.
Il y a certainement aussi une idée que, en fait, exister, c'est résister. Et du coup, pour les Palestiniens, exister en tant que peuple, c'est important. C'est reproduire la famille, toutes ces valeurs. Ça a aussi un sens politique qui est important. En fait, tous les projets coloniaux sionistes, qui est un sionisme de peuplement, se base justement sur l'élimination de la population indigène. Et du coup, ben, on essaie de lutter contre ça par tous les moyens. Et du coup, c'est aussi une résistance de type démographique. Je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle les Palestiniens font des enfants, mais oui, ça a aussi un sens politique.
Ils essaient simplement de vivre.
Oui. C'est ça.
La vie, faire des enfants, c'est la vie aussi.
Évidemment, oui.
Et si vous n'avez plus d'enfants, les Israéliens se sont très contents.
Ça, bien sûr.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, je me permets, tu parlais d'armes, de formes de résistance, et j'ai envie de me permettre, c'est une forme d'agression de la part des Israéliens, de mettre aussi les ultra-orthodoxes, qui sont ceux qui font le plus d'enfants dans les colonies, dans les territoires occupés, pour mathématiquement occuper le terrain, occuper l'espace. Tu mets une famille avec 12 enfants, tu vas occuper plus de place qu'une famille avec un enfant. Donc c'est une bataille. C'est une bataille démographique.
Après, c'est pas de la faute des Palestiniens si on tue les enfants palestiniens.
À l'université, comment ça se passe? Quelle est l'atmosphère? Vous avez des contacts, bien sûr, avec les étudiants, les enseignants. Comment ils vivent ce qui se passe? Enfin, si on peut répondre à cette question, quoi. Comment ils vivent ce qui se passe à l'université? Vous êtes à Versailles?
Alors, moi, en fait, je suis à l'université d'Aix-Marseille, mais oui, j'ai des collègues, je suis un peu en contact avec l'université de Bézette. Et ben, c'est très compliqué. L'armée israélienne est venue plusieurs fois, ils ont arrêté des étudiants. En plus, pas seulement ça, ils ne viennent pas seulement au campus, ils vont aussi chercher les étudiants qui sont un peu militants, ils vont les chercher chez eux, et du coup il y a beaucoup d'étudiants qui ont été arrêtés par l'armée israélienne, et aussi des professeurs, du coup, par exemple Khalida Jarrah, qui est aussi membre du PFLP, elle a été arrêtée après le 7 octobre, elle est encore en détention administrative, il me semble, du coup sans vraiment une accusation. Et du coup, en fait, tout est assez, c'est très difficile de continuer à faire des cours dans cette situation. Mais ce qu'ils ont fait, et je trouve que c'était très bien, ils ont, en fait, baisé, ils se trouvaient plus loin de la Mamba. Et en fait, ils ont organisé des cours, des échanges dans la ville de Ramallah pour être en contact avec le reste de la société, discuter un peu comme ça, dans des salles comme ça, ouvertes à tout le monde, et pour réfléchir ensemble à la situation, ce qu'on peut faire collectivement. Et du coup, voilà, il y a toujours aussi cette expérience aussi de résistance au sein de l'université aussi.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Et il y a du monde qui participe à ce genre d'action.
Il y a beaucoup d'étudiants, évidemment. Ouais. Mais oui, il y a des gens qui ne sont pas seulement liés à l'université, qui viennent, qui discutent. Et c'est des échanges intéressants. Mmh. On peut aussi interclasse.
De la détention administrative, parce que je ne sais pas exactement ce que c'est.
La détention administrative. Oui, la détention administrative, excusez-moi. En fait, c'est une petite détention, préventive, si on peut dire ça. En fait, c'est un dispositif qui est utilisé par Israël pour arrêter des gens, mais il n'y a pas une véritable accusation. Du coup, ce n'est pas des coupables qui vont en prison, mais les gens qui sont arrêtés peuvent rester en prison pour 6 mois, mais ça peut être aussi renouvelé. Du coup, on a des gens qui sont en détention administrative, du coup, ils n'ont pas fait un procès, il n'y a pas une véritable accusation contre eux, mais qui peuvent passer aussi des années en prison. Et bah, c'est vraiment des cas pour tout le monde maintenant. Tous les nouveaux gens qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre, c'est plus ou moins 9 000. La plupart, c'est des détentions administratives.
Combien de 9 000, c'est ça?
Je crois
combien
de personnes? 9 000,
oui. Quelque chose comme ça. Ça me parle, pour revenir justement sur les prisonniers, au mois de novembre-décembre, il y a eu une trêve où ils ont fait échange otages contre prisonniers. Ils ont dû, je crois, libérer 250 prisonniers palestiniens. Ouais. Dans la même semaine, ils en ont enfermé plus du double. Ils en ont enfermé 1200, un truc comme ça. Ouais. Donc je t'en libère la moitié.
Ils ont réarrêté des gens qui avaient été libérés pendant l'échange.
Alors, j'ai une question un petit peu à l'écart de tout ça. Est-ce qu'il y a des Israéliens qui réagissent à cette violence? Vous avez fait. Parce que je pense que tous les Israéliens ne sont pas militaires ou colons et ne sont pas tous obtus contre les Palestiniens.
Bien sûr. Alors, moi, j'ai eu la possibilité d'aller en 48 en Israël aussi, dans le cadre de ma recherche. Alors, c'est assez compliqué. C'est vrai que le 7 octobre a beaucoup polarisé l'opinion publique. Beaucoup de gens qui se considéraient aussi modérés, ils ont commencé à avoir des discours pro-guerre, pro-destruction de Gaza. Beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, il y a tout un phénomène qui s'appelle le réveil de la gauche, qui était plus critique, un peu plus pro-palestinienne, qui maintenant n'est plus du tout et qui soutient l'agression à Gaza, la destruction du Hamas, etc. Mais il y a des sujets, ça ne fait pas beaucoup de monde, mais il y a une minorité de gens qui s'opposent à l'agression, qui se considèrent aussi antisionistes, et qu'en fait ils sont contre l'agression. Après, maintenant, les gens qui font les manifestations en Israël, il y a plusieurs différents groupes. Il y a les familles des otages qui demandent de cesser le feu. mais ils n'ont pas forcément à cœur les destins des Palestiniens. Il y a des gens qui sont contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu, et du coup, ils demandent ses démissions. Et il y a un minuscule pourcentage des gens qui ne sont pas contents de l'agression sur Gaza. Mais je pense que petit à petit, ça commence à changer. En fait, ça devient insoutenable aussi pour eux.
Oui, on peut citer quand même la Haaretz,
oui.
qui est un journal de gauche et qui écrit des choses extrêmement fortes qu'on partage souvent, hein,
oui.
sur la situation, sur la politique israélienne à l'égard de Palestine.
Oui, c'est ça. Et oui. Et ils ont des gens qui contribuent, qui ont des bons articles. Et surtout maintenant, après les 7 octobre, c'était déjà un peu plus polarisé, même à l'Est. Mais il y a aussi des associations israéliennes des droits de l'homme qui travaillent aussi avec les Palestiniens, qui datent depuis longtemps, Bethlehem, Physician for Human Rights. Il y a aussi une association des soldats.
Breaking the Silence.
Oui, du coup, des soldats israéliens qui ont fait l'armée, qui ont vu ce que signifie en fait de faire l'armée, la violence de l'armée israélienne contre les Palestiniens, et qui après ont commencé aussi à dénoncer ce qui se passe et raconter ce qu'eux-mêmes ils ont fait, et du coup c'est un peu de répondre. Mais bien sûr, il y a de solidarité avec les Israéliens, des Israéliens avec les Palestiniens. Et c'est ça qu'il faudrait vraiment renforcer. Et même dans les années 70, il y avait un parti politique, Matzpen, qui c'était un peu pas de communisme, et eux, ils travaillaient ensemble avec la résistance palestinienne, le PFLP, et du coup, ils étaient en contact avec Hassan Kanafani. Du coup, il y a une histoire un peu aussi ancienne de la gauche israélienne antisioniste avec aussi les Palestiniens.
Et comme tu parles de politique israélienne, je rebondis sur la politique palestinienne. Qu'en est-il de l'autorité palestinienne? Parce que c'est vrai que nous, de France, très honnêtement, pour moi, depuis 7 octobre, à part la démission du gouvernement il y a quelques mois, mais sinon, j'ai vraiment l'impression que l'autorité palestinienne était complètement silencieuse.
Oui, la question de l'autorité palestinienne, c'est une grosse question. Et, l'autorité palestinienne, moi, je la considère comme un espèce de sous-produit de la colonisation, c'est-à-dire que c'est un organisme qui existe, mais qui est fonctionnel à l'occupation israélienne. Ils ont des coopérations de sécurité. Du coup, tous ces éléments et ces mouvements qui sont dangereux pour Israël, ils sont arrêtés par l'autorité israélienne et palestinienne. Et du coup, les prisons de l'autorité palestinienne sont pleines d'opposants politiques et aussi de gens qui font partie de la résistance palestinienne. Et ça, en fait, l'autorité palestinienne existe parce qu'il y a cette coordination. Et après le 7 octobre, ils n'ont pas fait mieux. Ils ont aussi arrêté des gens pendant les manifestations. Et moi, j'étais à une manifestation à Ramallah. Et à un moment donné, il arrive une camionnette de l'autorité palestinienne et ils ont arrêté quelqu'un. C'était peut-être quelqu'un qui soutenait le Hamas, mais c'est genre de... juste un manifestant. Et du coup, oui, ça arrive. Ils continuent d'arrêter des gens. Ils ont même tué, en fait, pendant des manifestations. Ils se sont mis à tirer sur la foule. Et oui, c'est assez problématique, la position de l'autorité palestinienne.
Et j'imagine qu'ils ne doivent plus avoir beaucoup de respect de la part de la population.
Ben non, ils n'avaient pas. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas. Sauf que, en fait, l'autorité palestinienne, c'est une espèce d'État. Du coup, il y a énormément de gens qui sont embauchés par l'autorité palestinienne. C'est eux qui payent les salaires. Tous les fonctionnaires publics, ils se réfèrent à eux. Et du coup, pour ça, en fait, ils ont un levier sur la société. Et, mais aussi, il faut dire qu'il y a, c'est devenu une problématique aussi pour, de ce point de vue, parce que depuis le 7 octobre, avec, comme Israël contrôle 65% du budget de l'autorité palestinienne, ils ont arrêté, en fait, brièvement, en fait. Israël prélève des impôts au nom de l'autorité palestinienne. Tout ça constitue 65% du budget de l'autorité palestinienne. Et après, Israël résolve cet argent tous les mois à l'autorité palestinienne. Mais ils peuvent suspendre la rémission de cet argent. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Du coup, maintenant, l'autorité palestinienne n'a pas cet argent. Et ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils payent 50%, 65%, quelquefois 30% des salaires. Et du coup, c'est devenu insoutenable. Tous les fonctionnaires publics, on parle de médecins, d'enseignants, tout en fait, tous ceux qui travaillent pour l'autorité dans les services publics, n'ont plus d'argent. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est vraiment de la faute de l'autorité palestinienne, mais on voit qu'il y a un problème dans tous les systèmes. Et à propos de ça, oui, maintenant en Cisjordanie, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, la population est en train de devenir très pauvre. Un peu pour ça, ce que je viens de dire, les salaires ne sont pas payés, mais parce que aussi beaucoup de gens travaillaient en Israël. Et maintenant, tous les permis de travail ont été suspendus. Et du coup, personne ne peut aller travailler de Cisjordanie en Israël. Et ça faisait quand même beaucoup de gens, genre de milliers, 100 000, il me semble, ou même 200 000. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup de gens qui demandent l'argent pour la vue. Et pendant le ramadan, les gens ne s'invitaient pas les uns des autres. Parce que si on est invité chez quelqu'un, il faut toujours amener quelque chose. Et cette année, les gens n'avaient pas forcément d'argent pour amener de la bouffe. Et du coup, pour éviter cette situation, on a évité de s'inviter.
Est-ce qu'il y a une inflation en Cisjordanie comme à Gaza ou pas trop sensible ?
Non, c'est pas aussi sensible. Non. Pas trop sensible.
Oui, par rapport aux travailleurs palestiniens qui ne peuvent plus travailler en Israël, à un moment, il était question d'augmenter les importations de travailleurs indiens. Il y a eu des pourparlers entre Netanyahou et Modi. Donc, où est-ce qu'on en est de cette affaire-là ? Parce qu'il faut quand même avoir des travailleurs sous-payés. Donc, si on ne peut plus prendre nos locaux qu'on exploitait, au vu et au su de tout le monde, mais en toute impunité, il faut faire venir d'autres travailleurs et qu'on exploitera de la même façon. C'était un peu là le projet à mettre en route. Est-ce que ça se concrétise ?
Alors, je crois que le projet s'est un peu bloqué. Je pense qu'ils ont envoyé quelques travailleurs, mais ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, toute cette histoire de travailleurs palestiniens, ça nous fait comprendre vraiment les relations structurelles entre le colonialisme et le néolibéralisme. En fait, la Palestine, la Cisjordanie, est un. En fait, ces travailleurs-là sont une manœuvre à bas prix, mais c'est aussi un marché captif, en fait, de ces travailleurs-là qui n'ont pas accès à d'autres possibilités de travail. Mais les travailleurs étrangers, ça coûte quand même plus cher aux Israéliens, parce que les travailleurs palestiniens, ils viennent en Israël, ils travaillent, après ils rentrent chez eux. Du coup, il ne faut pas considérer tout ce qui est où on va les loger, tout en fait, toute la question logistique. En fait, c'est des travailleurs qui sont complètement indépendants, ils viennent, ils travaillent, ils rentrent chez eux, tandis qu'un travailleur étranger, oui, ça comporte plus de. Ça coûte plus cher. Mais ils avaient eu un autre problème, en fait, à ce sujet-là, avec les travailleurs thaïlandais. parce que du coup, parmi les otages, malheureusement, il y avait aussi des otages thaïlandais, du coup c'était des travailleurs qui ont été kidnappés par le Hamas. Et du coup, plein de Thaïlandais ils se sont dit qu'Israël, c'est plus un endroit où vivre. Et en fait, Israël n'est plus un pays attractif pour plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir et les travailleurs n'ont pas forcément de venir y travailler. Du coup, ça pose un grand problème, tout ça. Ils ne vont pas être remplacés aussi facilement, les travailleurs palestiniens.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Tu dis que donc Israël n'est plus devenu attractif. Toi qui voyages et qui as du coup différentes origines, est-ce que tu as l'impression que l'image d'Israël à travers le monde a changé aussi?
Dans le monde.
Dans le monde. De ce que tu as pu voir, je sais que tu étais beaucoup en Cisjordanie depuis le 7 octobre, mais là après quand tu es sorti, de ce que tu vois, les étudiants, j'imagine de tous les pays que tu peux rencontrer, parce que très honnêtement, en France, tu as dû savoir, c'était soutien inconditionnel à Israël, ça a traîné jusque, allez, février, et je sais pas pourquoi, à partir de 30 000 morts, ils se sont dit, voilà, ça fait beaucoup, maintenant on n'est plus trop d'accord. Et j'ai l'impression que Israël n'est pas si moins suivi qu'au mois de novembre, par exemple. Est-ce que...
Moi, je pense que oui, tout à fait. S'il y a des effets positifs, si on peut dire ça, du 7 octobre, malgré toute la tragédie, c'est que ça... En fait, la Palestine, c'est redevenu une question centrale au niveau mondial. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité pro-palestinienne qui vient de partout dans le monde. Et du coup, évidemment, aussi, il y a une critique à Israël. C'est plus facile maintenant de critiquer Israël. Et je pense qu'avant, c'était un peu aussi un non-sujet, ça n'intéressait pas beaucoup de gens. Mais j'imagine qu'ici, peut-être vous l'avez remarqué aussi. Moi, j'ai vu les petits groupes BDS, les petits comités Palestine. Après le 7 octobre, c'est devenu des groupes énormes. Tout le monde commence à s'intéresser de la Palestine. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se mobiliser, mais aussi de faire face à tous les discours d'intimidation qui disent que vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Il y avait beaucoup ça. Maintenant, c'est plus facile, les gens n'ont plus peur de critiquer Israël.
Il y a un petit peu un lien avec tout ça. Dès la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre, il y a eu des pétitions qui ont circulé pour protester contre la censure qui se faisait sur la Palestine dans l'université française. Alors, comme tu as cheval entre l'université française et la Palestine, je voulais savoir si cette censure a baissé ou si elle continue à s'exercer. Est-ce que la situation s'est un peu détendue, disons?
Malheureusement, non. Moi, je trouve que... En fait, la répression est plus forte. Je ne sais pas, peut-être c'est une réaction. Mais par exemple, moi, je devais intervenir dans une conférence au mois d'avril, non, de mai. Et elle a été annulée deux fois. Du coup, non, on est encore dans la censure. Et moi, je trouve que c'est très effrayant, c'est ce qui se passe dans les universités. Les dirigeants des universités qui appellent la police pour faire dégager les étudiants. Et les tabacs, il y a des gens qui ont été arrêtés par la police, même dans un lycée. Si... Oui. Non, du coup, moi je trouve qu'il y a une réaction des institutions qui est très violente. Et peut-être elle ne va pas... En fait, ils ne sont pas du tout dans les compromis. Comme dire, les mouvements deviennent de plus en plus forts. Il y a plus de gens qui se mobilisent, mais eux, ils continuent à taper, à ne pas vouloir entrer en fait, dans des débats. Mais moi, je pense que petit à petit, en fait, plus les discours pro-palestiniens vont s'élargir, plus à un moment donné, en fait, ça va exercer, un pouvoir du bas vers l'eau. Et du coup, selon moi, à un moment donné, oui, les discours pro-palestiniens, ça devait. En fait, les dirigeants, les institutions, ils devront aussi accepter une sorte d'ouverture vers la Palestine.
J'espère. Oui,
mais
quand même aussi dans un état policier.
Oui, là, c'est ce qui vient de se passer en France.
Oui, il est possible que ça change bientôt. Mais pour l'instant, on est vraiment dans un état policier. Et ce qui se passe, ça se passe aussi pour ceux qui protestent contre l'autoroute à 69. Ça se passe aussi pour ceux qui protestent contre énormément de sujets. Hein. La police est très, très puissante en France. Hein. Beaucoup plus que dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Beaucoup plus qu'en Allemagne, par exemple, qu'en Angleterre.
Mais pour ça, moi, je trouve. Que lutter pour la Palestine ne signifie pas seulement lutter pour les peuples palestiniens. La Palestine est devenue en Europe une lutte contre aussi le fascisme, contre tout ça. Et c'est pas anodin que la police française et les polices européennes travaillent avec toute l'industrie militaire et la police israélienne. En fait, il y a des unités de la police israélienne qui viennent dans les prisons pour entraîner différentes polices en Europe. En fait, c'est tout un système qui est lié finalement. Et moi, je trouve que c'est devenu une espèce de lutte, d'affrontement contre des idéaux de justice, mais aussi de liberté, contre des forces de contrôle, de surveillance, l'état policier et le militarisme. Finalement.
On fabrique des armes en France comme en Israël, c'est vrai. Bah, oui. Il ne faut pas que ça se voit trop. Mais...
Bah, oui.
Pas que les gens qui sont contre puissent faire trop de bruit, je pense.
Tout à fait, oui.
À ce propos, on a eu une petite victoire des associations. C'est par rapport à Rossatori, c'est le salon d'armement annuel qui se déroule en France. Et les associations ont obtenu effectivement que Israël ne soit pas présent cette année. Alors qu'Israël, je crois que c'est le sixième vendeur ou septième vendeur d'armes au monde. Un pays qui est grand comme, je ne sais pas, 4 ou 5 départements français, je crois que c'est de cet ordre-là. C'est quand même absolument stupéfiant.
Ils étaient contents d'enlever un concurrent, peut-être.
Pour le coup, je pense que c'est vraiment le travail des assos qui a payé.
Oui, c'est le travail des assos.
Apparemment, ils ont tellement mis la pression qu'ils ont dit ouais, ça va faire mauvaise presse si on les garde, donc ils les ont écartés. Mais...
Ça se voyait un peu trop.
Ouais.
Ça ne change pas grand chose sur le fond.
Ça empêche quand on achète des armes et qu'on en vende. Ça fait vivre
la France. Elle était toujours un partenaire des armes d'Israël. C'est la France qui a soutenu les programmes nucléaires d'Israël dans les années 50.
Oui, mais qui a fourni les éléments pour qu'Israël puisse fabriquer l'arme nucléaire.
Et Israël nous a aidé à financer la nôtre. En échange. Mais... Israël nous a aidé à financer la bombe atomique aussi. Dans cet échange-là. Ouais.
Seb, et puis après, Huguette, tu as un point.
Alors, je ne sais pas exactement depuis combien de temps vous êtes étudiante en France, mais justement, je me demandais quels sont vos rapports avec l'administration française. Est-ce que le fait d'avoir été identifié comme ayant une nationalité palestinienne, ça a suscité certains problèmes ou pas? Est-ce que ça a été facile?
Moi, je n'ai pas une carte d'identité palestinienne. En fait, mon père, il avait une carte d'identité palestinienne, mais comme il a habité longtemps à l'étranger, il n'était pas rentré en Palestine après les accords de Oslo. Il s'est retrouvé, lui, comme des milliers de gens, en fait, ils lui ont enlevé la carte d'identité palestinienne. Du coup, moi, quand je suis née, je n'ai pas pu obtenir la carte d'identité palestinienne. Et non, moi, j'ai la carte d'identité italienne, J'ai pas beaucoup de problèmes au niveau administratif, mais c'est vrai, par exemple, et ça en vient un peu à la question de tout à l'heure. Et moi, quand je, par exemple, dans mes écrits, dans ma recherche, je veux parler de la Palestine et les mettre, dans, par exemple, dans un cadre colonial, c'est très difficile de porter ce discours. Mes enfants, ils veulent toujours que je parle d'un conflit, dans un contexte de guerre, voilà, avec ce discours, toujours une espèce de symétrie des pouvoirs. Tandis que pour moi, c'est clairement un contexte colonial, il faut l'analyser comme tel. Mais ça, c'est vraiment le pouvoir d'un discours hégémonique qui est présent en France.
سكتت لن نجب ولا
Les rencontres politiques en Ariège, questions locales, territoriales, régionales, interrégionales ou même mondiales, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique. Celui qui ne veut pas lutter a déjà perdu. L'émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires elle-même. Alors, on en discute pour mieux agir. Sur Radio Kikiki Pic. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet www.radiokipic.org.